La Basse Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les les samedis à 11h et dimanche à 13h avec Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche que je vais consacrer aujourd'hui à l'homme, l'arbre, la forêt, jadis en Basse Marche. Pour les textes, j'ai fait appel aux auteurs suivants: Charles Sylvestre, Au soleil des saisons, Pleine terre et Belle France. Louis Peignot, Au relais de l'étang vert. Jean-Claude Perronnet et Michel Kiner, Quand Turgot régnait en Limousin. Louis Timbal, Géographie du Limousin. Florence de Guy, Fanchette et Au pays de la fileuse. Paul Lavergne, La joie de l'été. Et Georges Deschera, La légende du chasseur.
La Basse Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les avec Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche.
Mon ami, que de fois avez-vous rassemblé dans une grange vos métayers, vos journaliers et leurs enfants. Vous leur parliez des chers arbres, vous disiez. L'arbre rend notre climat plus doux. Il nous défend, c'est le protecteur et le nourricier. Il donne des voix à la terre patrie. Sans lui, c'est le désert et l'épouvante. Il ne faut pas le mutiler ni l'entailler. L'automne dernier, vous avez constitué une fête de l'arbre. Le maître d'école était venu à votre aide. Dans une prairie, des jeunes filles ont fait la ronde autour d'un ormeau centenaire. Un enfant effeuilla des fleurs sur ses racines. Puis il planta un jeune chêne qui dépassait à peine sa tête frisée. Vous ne cessez de déplorer l'aveugle massacre des arbres qui dure depuis tant de siècles et qui devient plus cruel. Les villes ont englouti des forêts. La disette du bois d'œuvre arrive par indifférence et cupidité. Pas de fontaine sans les arbres.
Il a plus de 200 ans, c'est l'ancêtre, dit le vent. Les hommes ont bien essayé maintes fois de le couper. Mais il a levé les bras en criant non, pas le droit. Je suis vivant comme vous, je ne peux vivre à genoux.
Assis-nous aux pieds, les pieds à terre.
Un arbre debout face à l'univers.
Assis-nous aux pieds, entre ciel et terre.
Un arbre de vie, attends, espère.
Assis-nous aux pieds, les pieds à terre.
Un arbre debout face à l'univers. Un arbre de vie, attends, espère.
Vie et mort d'une forêt, c'est un texte de Louis Peignot extrait de Au relais de l'étang vert. Dans ce texte, Louis Peignot nous parle de la forêt de Rancon. La forêt de Rancon n'est plus. Aux voyageurs qui la traversent, elle n'offre plus à l'automne les chaudes teintes rousses de ses grands chênes. Des halliers, des fourrés ont pris leur place, à l'ombre desquels s'abritent les jeunes sapins plantés pour le siècle prochain. Ce nom, inattendu de forêt, véritable titre de noblesse qui lui vient d'un très lointain passé, le retrouvera-t-elle, elle qui ne couvre que 500 hectares à peine? Ses nouveaux hôtes, les résineux, ne seront jamais que des arbres à débiter à leur maturité, alors que ces chênes ont été intimement associés à la vie des populations établies dans ce haut lieu de la Gaule celtique et de la Gaule romaine qu'a été Rancon. Elle en a été le garde-manger au temps où les hommes, pas encore devenus laboureurs, étaient avant tout chasseurs et éleveurs. Chasseurs de petits et de gros gibiers, éleveurs de porcs à qui la forêt de chênes offrait son abondante glandée. La forêt n'est pas le monde barbare et l'élément indocile qui résista à l'homme. Elle fut dans tous les temps de l'agriculture primitive et elle resta dans les siècles historiques et presque jusqu'à la fin des temps modernes, un des éléments essentiels de l'activité rurale. La vie de chasse et de forêt a marqué de son empreinte indélébile l'homme des sociétés anciennes. Ces réflexions de Gaston Roupnel nous présentent la forêt comme un auxiliaire très précieux de nos lointains ancêtres en marche vers le progrès. C'est pourquoi, sans doute, lui prodiguèrent-ils tous leurs soins, peu de taillis, peu de fourrés, mais des sous-bois dégagés sous les hautes ramures des chênes séculaires. C'est pourquoi celle de Rancon, bien que de petite étendue, garda son titre mérité.
Un arbre de vie attend et espère, un arbre de goût face à l'univers, un arbre de vie attend.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Le texte de Charles Sylvestre, extrait de Pleine Terre, comme celui de Louis Peignot, que l'on trouve donc dans son ouvrage Au relais de l'étang vert, pose l'ensemble ou presque des fonctions de l'arbre et de la forêt. L'arbre, la forêt, sont des corps vivants qui permettent le renouvellement de l'oxygène. La forêt est la gardienne de la vie qui protège les sols du rayonnement solaire et donc garantit la régularité du cycle de l'eau, l'équilibre du climat et la fertilité des sols cultivés. C'est un véritable réservoir d'eau. La forêt, c'est aussi ce qui permet aux hommes de chasser, de se nourrir et de se chauffer. Les sociétés paysannes y trouvaient tout ce qui était nécessaire aux besoins du ménage. Le bois de feu, le bois d'œuvre, l'espace nourricier avec l'exercice de la vaine pâture et de la glandée, la chasse qui fut longtemps réservée à la noblesse. Cette histoire explique la priorité accordée aux essences nourricières et en premier lieu aux chênes, aux fruitiers sauvages, aux hêtres et aux châtaigniers.
Dans la forêt, il y a un vieux chêne, un bon vieillard en bois d'arbre touffu. Au cœur du chêne murmure une fontaine que nul n'a jamais vue.
Dans leur ouvrage « Quand Turgot régnait en Limousin », Jean-Claude Perronnet et Michel Kiner nous donnent une information sur la forêt de notre région au XVIIIe siècle. L'arbre est abondant malgré un défrichement forcené et ancien qui a marqué surtout les parties les plus hautes où règne désormais la lande à Genêt, Ajon et Fougères. Si dans la montagne dominent les murets de pierre sèche, si les communaux sont toujours ouverts, si les terres sont moins fréquemment encloses que les prés, l'aspect habituel est celui d'un bocage où les haies sont présentes partout. Haies d'épineux, de noisetiers ou de vergnes complantées de chênes têtards et de châtaigniers, lesquels se retrouvent aussi ça et là isolés en plein champ. Vu du sol, le pays doit à ses arbres l'aspect d'une contrée abondamment boisée, presque uniformément forestière. En fait, cette impression est fausse, car l'arbre est beaucoup plus rare en basse marche, où il ne reste que des lambeaux de forêt, comme la forêt royale de Rancon ou celle des Coutumes. Mais on rencontre de nombreux bois, le plus souvent petits, qui renforce cette impression de présence constante de l'arbre. Le géographe originaire de Château-Ponsac, Louis Timbal, dans sa géographie du Limousin, précise que la basse marche a un aspect semi-forestier, avec taillis, châtaigneraies, arbres alignés le long des haies ou parsemés dans les champs. Il indique que malgré les défrichements qui ont transformé en terres labourables certains districts de Bruyères et d'Ajon, des monts de Blon, de belles châtaigneraies subsistent sur les flancs de quelques mamelons. La basse marche est une des zones les moins boisées du Limousin et cela fut plus flagrant encore au XVIIIe et au XIXe siècle. Nous avons peine à imaginer aujourd'hui le rôle essentiel et de première nécessité qu'a tenu le bois dans la vie économique des siècles passés. Combustible destiné à cuire le pain et la nourriture, accessoirement à se chauffer, source d'énergie pour la plupart des industries, matériaux de base utilisés pour la construction des bâtiments, des machines, des véhicules de transport. Ajoutons d'ailleurs que la forêt était d'autant plus surexploitée que la population s'accroissait et que les rendements agricoles restant très bas, la surface agricole s'étendait au détriment de la forêt. La situation ne s'est vraiment inversée qu'à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, avec le développement du chemin de fer, le charbon, puis plus tard le pétrole, ont relayé le bois comme source d'énergie.
Il y a tant de forêts, il y a tant de ruisseaux, voici mon secret, m'a dit un oiseau. Et dans le cœur de mon âme, mille chênes, et dans son cœur que nul n'a jamais vu, il s'est posé au bord de la fontaine, et dans son cœur doucement il a bu. Il y a tant de forêts, il y a tant de ruisseaux. Voici mon secret, m'a dit un oiseau.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Dans Belle France, Charles Sylvestre nous parle ainsi de la forêt généreuse. La forêt toujours généreuse offre ses dons qui font vivre des familles entières. Avant la guerre, les fougères et les genêts étaient coupées et brûlées. Leurs cendres, fines, vendues aux lavandières qui les recherchaient pour la blancheur qu'elles donnent au linge. À la lisière, le menu peuple a pris l'habitude depuis des siècles de chercher provende. On mène encore au futaie de chêne ces porcs réputés que l'on appelle glandiers. Ils se gavent de glands qui leur donnent une saveur particulière. Les brebis et les bœufs y trouvent une herbe odorante, mais trop souvent on laisse courir le bœuf à barbe, c'est-à-dire la chèvre, qui fait toujours beaucoup de mal. Les bergers qui gardaient leurs troupeaux à la lisière charmaient les heures de loisir en tirant d'un morceau de hêtre, de buis ou de noyer, de charmants objets usuels, cuillères, écuelles ou gobelets. Dans son roman Fanchette, Florence de Guy nous parle, elle, des charbonniers de la forêt. Beaucoup vivaient de métiers disparus aujourd'hui. Un vieux couple allait pendant tout l'été faire du charbon dans les bois du roi. Bellac, dont les anciennes adresses au pouvoir suprême figurent au centre de 9 forêts de Sa Majesté. Les vieux campaient en plein taillis, de longs mois, près de la meule couverte de terre et d'herbe. Ils rapportaient dans des hottes le charbon léger. Dans le vague rêveur des yeux et la démarche glissante, ils avaient pris quelque chose aux bêtes des bois.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Si la forêt est un lieu d'intense activité, c'est aussi un espace craint, naguère peuplé de loups, de fauves, d'esprits malfaisants réels ou imaginaires, ou bien encore d'hommes en cavale ou d'hommes révoltés, comme les maquisards par exemple. C'est aussi le désert humain que choisissaient les ermites ou les fondations religieuses. Notons encore que de tout temps, l'arbre et la forêt ont présenté un caractère symbolique, celui que l'homme a bien voulu lui attribuer. Le chêne symbolise le respect et l'autorité, le châtaignier la prévoyance, le coudrier la réconciliation. Du chêne de Saint-Louis ou de Sully aux arbres de la liberté, du sapin de Noël à la tradition du mai, l'arbre est associé à de nombreuses fêtes, comme à notre histoire. Mais pour l'enfant comme pour l'adulte, l'arbre reste le héros de ses jeux, de ses rêves ou même de ses peurs. C'est bien dans la forêt que l'on en voit le petit pousset, le petit chaperon rouge ou Hans et Gretel. Mais pour tous, l'arbre, comme nous le chante ici Georges Brassens, est bien le symbole de la sagesse et du bonheur tranquille.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligot, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futaies. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Nous allons maintenant, par le biais de nos poètes et de nos romanciers, nous intéresser à quelques essences d'arbres, de nos forêts et de nos bois. Et parmi ces essences, d'abord, le châtaignier. Une description de la châtaigneraie par Florence de Guy dans son ouvrage « Au pays de la fileuse ». Au printemps, rien n'y était plus délicat que la couleur tendre des fougères nouvelles, la transparence des premières feuilles dentelées rajeunissant les vieux arbres tordus et branchés, n'ayant que l'écorce, parfois. Quelques violettes poussaient sur les talus, des violettes sauvages, aux fleurs pâles, aux sombres petites feuilles allongées. Les stellaires droites sur leurs tiges si fines s'élevaient, fragiles, cassées au moindre choc. La ronce fleurissait en grappes mauves et à ses pieds, des coucous à la pénétrante odeur. En été, l'ombre de ces grands bois était exquise. Les fougères avaient alors une tige brune et vernie. Quel plaisir de l'entendre craquer sous les pas, de se coucher au pied d'un tronc bossu sur l'herbe et d'arracher lentement des brins de thym que l'on respire en les froissant. Il y avait quelques champignons. Marie en aimait qui n'étaient point comestibles. Elle les cueillait pour les regarder. Voici un jaune à traces bleues, à bord abaissé. Un autre, vert et creusé comme une coupe. Un rouge vif, à taches blanches en relief. Sous une herbe haute s'abrite un blanc creusé, à dessus mauve, et qui retient une feuille morte collée à lui. Le bolet de Satan sous le pied qu'il écrase devient merveilleux, jaune, jaune éclatant, bleu, puis violet pourpre. Les petites branches des châtaigniers étaient cassantes. Au printemps, Marie en enlevait un peu d'écorce pour voir l'afflux de la sève qui devenait mauve à l'air. La feuille, résistante, se prête à des jeux. On peut enlever et laisser alternativement le limbe entre deux nervures. On obtient alors un double peigne du plus bel effet. Tard, les feuilles tombaient, les châtaignes aussi. Elles brillaient entre deux fentes de la coque où l'on se piquait cruellement.
Petite
Parce que
et
le bois était nu,
la
triste, mouillé d'eau tenace et lente, Marie aimait encore le parcourir en suivant les petits sentiers dans le bruit des larges gouttes. À la lisière, une pie hochait sa queue noire, oiseau d'un goût parfait dans sa tenue sévère, la tête brusquement penchée. Son œil rond semblait surveiller deux, trois corbeaux immobiles, tristes, sur un arbre bas et arrondi. À la bordure, des houx brillaient, arbustes de fête. La haie, dépouillée, montrait ses épines longues et noires qui s'entrechoquaient dans le vent violent. La rivière coulait jaune et gonflée au ras des prairies ternes. L'eau boueuse écumait contre les petits piliers multiples et avait recouvert d'un flot opaque les pierres plates que tout l'été les hirondelles avaient frôlées de leurs ailes noires et où Marie avait vu glisser les longs anneaux des couleuvres vertes.
J'ai planté un chêne au bout de mon champ. Ce fut ma semaine, perdrai-je ma peine. J'ai planté un chêne au bout de mon champ. Perdrai-je ma peine, perdrai-je mon temps.
Paul Lavergne, elle, aime beaucoup les chênes. Voici un texte extrait de La joie de l'été, Les chênes en hiver. Les feuilles qui restent sont par touffes dans les branches et ressemblent de loin à de grosses boules de gui. Le ciel blanc de l'hiver est spirituel et semble un bon vieux qui sourit. Les gracieuses silhouettes des chênes sont précises et toutes vivantes d'oiseaux. Ces soleils d'hiver qui paraissent un moment, l'après-midi, mettent sur toute la campagne une joie fine jusqu'à l'horizon qui se perd dans la brume. Maintenant, un poème de Georges Deschéra, extrait de La légende du chasseur, le vieux chêne. Dans l'humus vigoureux, tu plonges tes racines pour accrocher au sol tes griffes de titan. Aussi dur qu'un menhir, tu courbes l'échine, car tu sais résister aux plus noirs ouragans. Sur ton tronc, un séisme a creusé des ravines. Ton écorce ressemble au dos d'un caïman. Le pivert, dans tes nœuds, frappe, creuse et s'obstine. Et ses coups sonnent fort comme ceux d'un trépan. Tu vois de ta splendeur émigrer les nuages. Tes rameaux torturés enferment dans leur cage un œil noir où jadis le freux bâtit son nid. D'un cyclope vivant es-tu l'exacte image ? Chaque été, ton ombrelle a toujours le même âge et la lune t'admire en voguant dans la nuit.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Planté sur l'ordre de Colbert, dans une forêt des Charentes, mes hautes branches voient la mer, mais c'est la terre qui me hante. et ceux qui sont venus hier. C'était d'étranges arpenteurs. Je suis un chêne qui a peur. Laissez-moi vivre encore un peu.
Quelques mots sur un arbre fort commun, le frêne. Nous les empruntons à Charles Sylvestre dans « Au soleil des saisons ». Le frêne est un bel arbre de nos campagnes. Il se multiplie au flanc des vallées, non loin des ruisseaux et des fontaines, comme au sommet des collines verdoyantes. Il ne craint pas les vents du nord, mais les souffles dessécherons du sud. Il faut à ses racines qui serpentent et s'enroulent sans profondeur une certaine fraîcheur de terrain. Sable et limon, humus léger, voisinage de sources vives. Il révèle une image de force et de grâce. On admire sa tige droite et vigoureuse qui s'élance et grossit également dans une parfaite harmonie. Le plus souvent, le tronc reste nu jusqu'à la taille d'un homme, dresse haut ses branches qui saisissent avidement l'espace au temps de sa jeunesse pour s'abaisser et se courber à l'âge mûr. Son écorce est douce au toucher, glauque et cendrée. Sans aspérité, le jour y tourne et la caresse. Et seulement dans sa vieillesse, elle se couvrira de verrues. Deux par deux, au nombre de 10 ou 12, ses feuilles coulent au long d'une tige mince. Et la dernière s'allonge ainsi qu'une seule goutte. Elles s'aiguisent toutes ensemble et ruissellent de lumière. Parfois, quand vient un calme soir de l'été, elles ont l'apparence d'un géant plumage que le vent rebrousse et balance pour une silencieuse fête où l'on voit naître la première étoile. Au printemps, lorsque les rossignols et les fauvettes à tête noire ont commencé de chanter, il ouvre ses fleurs minuscules en bouquets bruns et bouillonnants. Plus tard, apparaîtront des grappes de graines aiguës et longues qu'une peau menue enveloppe et que l'on a comparées à des langues d'oiseaux fabuleux. Elles seront mûres en octobre et la plupart tomberont. Quelques-unes s'attacheront aux rameaux pendant tout l'hiver. Ils donneront des perches, des échalas, des poteaux, des lattes pour le verger du domaine et des fagots pour le bûcher. Le feuillage est une bonne nourriture pour les bœufs, les chèvres et les moutons qui le mangent vert ou sec.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Bien sûr, nous en avons conscience avec cette émission, nous n'avons fait qu'effleurer le thème de l'homme, l'arbre et la forêt. Nous pourrions y consacrer plusieurs émissions. Nous allons terminer en nous intéressant à la place de l'arbre et de la forêt dans la toponymie de la basse marche. On trouve la forêt, comme la forêt de Sainte-Anne ou la forêt du Défant. La forêt du Défant, c'est une forêt où il est interdit de faire paître les animaux. Il y a bien sûr les bois, comme les bois du roi ou le bois mort, mais surtout les nombreux bosses, comme dans le mât du beau, qui donne bonnage, bosnage, le bouchage, le boucher, bouchet, le bouchot. Le breuil est un petit bois clos. Bucheuil est un bois abandonné, comme la roderie est un bois en friche. Les épeaux, c'est une réserve dans la forêt, et la garenne, c'est un petit bois au vile gibier. La touche est un bosquet, comme la puelle est un taillis, et les ramades également un bosquet. Le fouillou, comme bronzeau, c'est une zone couverte de feuillage. La range, comme la tière, est une rangée d'arbres. Le perche, une zone plantée de jeunes arbres. Les lignes, c'est une zone où l'on abat du bois de chauffage. La cousedière est un lieu défriché dans la forêt. Exideuil, une clairière dans la forêt. Quant aux arbres, le chêne, c'est la chassagne, chenepierre, la chagnade, le chassin, chenebeau ou ruyer. Le châtaignier, c'est le châtain, le châtanais, le châtaignier, parfois le rouille. Chasseneuil est une clairière dans un bois de chêne, mais Ballanche, de Balanus, est peut-être un terrain couvert de châtaigniers. Le noisetier, c'est certes la noisette, mais le plus souvent la core, la corade ou la scoue. Le peuplier, c'est les tremblades ou la trimouille. Le buis, la bussière, bucherolle, le boisse. Le bouleau, c'est la betoule, betoula, betoulet, les besses. Le saule, sauzet, la salesse, la sauzade. Le frêne, fressange, fressonnet, le fresse. L'aulne, c'est le vergne, vergnola, la vergnade. Le tilleul, le teil, les teillots, le tais. Le hêtre, c'est les faïoles, le faillot, la faille, l'orme, l'oum, l'homme ou les oumeaux. Le sureau, c'est le ceux, et le genêt, le genetet. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche que j'ai consacrée à l'homme, l'arbre, la forêt, jadis en basse marche. Pour les textes, nous l'avons fait en compagnie de Charles Sylvestre, de Louis Peignot, de Jean-Claude Perronnet, Michel Kiner, Louis Timbal, Florence Deguy, Paul Lavergne et Georges Deschera. Pour les accompagnements musicaux, nous avons fait appel au groupe Maluzerne, la basse duo, aux chanteurs Pierre Chêne, Georges Brassens, Dominique Guimet, Gilles Vigneault, Pierre Bachelet et au compositeur Michael Praetorius. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche. À très bientôt donc, et très bonne semaine à vous tous.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.